Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler cette semaine des langues officielles en France et dans le monde. Tout d'abord parce qu'il y a quelques découvertes à faire dans le domaine et aussi parce qu'il y a quelques enseignements à en tirer. Donc on a tendance à croire, quand on est français, que finalement la plupart des pays ont leur langue au singulier, officielle, point à la ligne, monolinguistique en quelque sorte. Et en fait, c'est pas du tout le modèle le plus courant. Et derrière, il y a forcément des enseignements historiques de rapports de force, de domination à en tirer. Alors, cette volonté d'uniformisation traduit des conceptions politiques, si elles s'appliquent. Et donc, tout d'abord, j'ai regardé pour la France, en métropole. À la veille de la Révolution française, un quart seulement de la population parle le français. Un quart, c'est pas beaucoup. Avant 1789, ce qui est étonnant, c'est que cette proportion ne va pas évoluer très peu jusqu'à la fin du 19e siècle. Et le décret révolutionnaire du 20 juillet 1794 impose pourtant le français dans tous les actes publics, mais ça ne se traduit pas vraiment dans les faits, en tout cas à propos du langage hors actes publics. Plus tard, notre actuelle constitution, dans son article 2, va enfoncer le clou. Elle va dire que le français est la langue de la République. Voilà. Donc, c'est dans les papiers, en quelque sorte, mais ça n'évolue pas malgré l'école obligatoire qui démarre grosso modo après la Révolution française et qui ne produit pas de résultats instantanés du tout dans le domaine de la langue de tous les jours. Alors, ça va surtout se généraliser, cette langue française que pratiquement tout le monde parle aujourd'hui, on peut dire 99%, ça va se généraliser surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il faut signaler aussi que dans le domaine, je pense à nos Bretons, mais les Occitans aussi, ça s'est imposé, cette langue officielle pour tout le monde. Le français, ça s'est imposé dans certaines coins de France, tout de même avec une grande brutalité. Il faut quand même le souligner. Alors, j'écarte volontairement pour cette chronique, bien que ce serait intéressant, les langues parlées dans les anciennes colonies ou dans les colonies d'aujourd'hui qu'on appelle les dom-tom, puisque le sujet deviendrait un petit peu compliqué, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc je me suis contenté de regarder pour la métropole, mais c'est tout de même intéressant de savoir qu'il n'y a pas si longtemps, une grande majorité de Français ne parlait pas le français. Alors, après, j'ai voulu regarder pour nos proches voisins comment ça se passait. Est-ce qu'on est tout sur cette conception qui nous paraît évidente à nous, que tout le monde parle la même langue? Alors, pour les Belges, je pensais qu'il y avait deux langues officielles, le néerlandais légèrement majoritaire et le français, vous connaissez, les flamands et les wallons. Eh bien non, il n'y a pas deux langues officielles en Belgique, il y en a trois, puisque l'allemand est également reconnu. En Suisse, c'est pareil, on pense à l'allemand et au français, eh bien non, ce n'est pas le cas non plus. L'italien est reconnu comme langue officielle en Suisse. Il y a une petite partie de la Suisse où on parle l'italien. Ils appellent ça les italophones. Et il y en a même une quatrième, mais qui n'est pas officielle celle-là, le romanche. Donc il y a quatre langues parlées en Suisse, dont trois sont reconnues, les italophones. Voilà, je cherchais le mot. Il y a quatre langues parlées en Suisse, dont trois sont reconnues comme langue officielle. Alors, j'ai regardé l'Italie. Alors, l'Italie, c'est assez extraordinaire. C'est, par rapport à nos pays voisins, les champions de la diversité dans le domaine, puisqu'on trouve pas moins de 13 langues existantes protégées par la Constitution. Alors, protégées par la Constitution, ça ne veut pas dire que ce sont des langues officielles pour tout ce qui est administratif, mais tout de même, elles ont un statut comme quoi elles sont reconnues et protégées. Et ça donne quoi ? Ça donne quoi au concret ? Eh bien, à la maison, 54% des Italiens ne parlent pas l'italien. C'était aussi pour moi une découverte. Alors, l'Espagne. L'Espagne, il n'y a qu'une seule langue officielle qui est le castillan. Mais, il y a un gros mais, à l'intérieur de certaines régions, les langues co-officielles existent, à savoir le catalan en Catalogne, le galicien en Galice, l'aranais dans le Val d'Aran, mais aussi le basque. En fait, il y a une langue officielle, le castillan, mais quatre langues dites co-officielles qui sont reconnues dans les régions considérées. Voilà pour montrer en quelque sorte, alors derrière il y a forcément des pages d'histoire à regarder, voilà comment ça se passe. Alors le Royaume-Uni, lui, le Royaume-Uni qu'on traduit d'ailleurs souvent quand on parle entre nous d'Angleterre, c'est un petit peu plus compliqué que ça, on va retrouver tout le poids d'une conception coloniale de l'Angleterre face finalement au pays du Royaume-Uni. Et la langue officielle, ça va être pendant longtemps l'anglais. C'est l'anglais qui est la langue officielle. Mais les Gallois, à force de bataille, résistent. Et la langue officielle, le gallois, est tout de même reconnue au pays de Galles. Mais au forceps, comme je viens de le dire. Et puis c'est la même chose, et c'est très récent, pour les Écossais, ce qu'on appelle le gaélique écossais, il vient seulement d'être reconnu, mais par le rapport de force, en 2005 seulement, comme langue officielle en Écosse. Alors quand je dis langue officielle en Écosse, c'est deuxième langue évidemment, puisque l'anglais reste la langue officielle pour tout le Royaume-Uni, évidemment. Voilà, donc derrière tout ça, évidemment, pas mal d'enseignements à en tirer. Alors, j'ai voulu regarder aussi les grands pays, uniquement les grands pays, puisque sinon, ce serait une encyclopédie, mais j'ai voulu regarder les USA, la Russie et la Chine. Et derrière, bien sûr, toujours des enseignements à en tirer. Alors, les USA, tout d'abord. Comme chacun sait, les USA sont un pays, enfin, est un pays composé de migrants. Il n'y a aucune mention, avec un grand mépris, pour ce qui reste du respect des langues, enfin, pour ce qui reste des Amérindiens et du respect de leur langue. Ça, on trouve pratiquement rien sur le sujet. On les a massacrés et on a fait disparaître aussi toute leur culture. Donc les langues amérindiennes, finalement, elles existent plus ou moins, mais on ne veut pas en entendre parler. Mais il y a un autre aspect, c'est que les États-Unis, il y a beaucoup d'hispanophones, notamment dans tout le sud des États-Unis, hein, qui sont quand même 40 millions d'habitants, parlent l'espagnol, et dans certains coins, majoritairement, on ne parle que l'espagnol dans certains coins du sud des États-Unis, hein, principalement Arizona, Californie, Nouveau-Mexique, Texas. Mais l'espagnol n'est absolument pas reconnu. Il est non seulement pas reconnu, mais en 2025, Trump a renforcé cette conception, hein, qu'on peut qualifier de coloniale, en signant un décret faisant de l'anglais la seule langue officielle du pays. Donc il en a remis une louche en disant qu'il n'y avait que l'anglais comme seule langue officielle du pays, malgré cette forte population, enfin en nombre en tout cas, d'hispanophones aux États-Unis. Alors, bon, c'est du Donald Trump, mais ça en dit long quand même sur la mentalité générale dans le pays. Et puis, il faut se souvenir aussi qu'il n'y a pas si longtemps, Donald Trump avait fait une déclaration du même style, enfin du droit fil, dans le même droit fil de l'optique, à savoir qu'il avait dit que le Canada et le Mexique devaient aussi faire partie des États-Unis. Et je ne parle pas du Groenland. Donc on voit bien là, on est vraiment dans une conception de domination, une conception coloniale, au sens strict et au sens fort également. Alors, pour marquer un peu les différences, j'ai voulu aller voir en Russie, la Fédération de Russie telle qu'elle existe aujourd'hui. La Fédération de Russie telle qu'elle existe aujourd'hui, eh bien, la seule langue officielle pour les relations au niveau de la Fédération est le russe. Jusque-là, pas véritablement de découverte. Mais, il y a un gros mais, les républiques de la Fédération sont libres de définir une langue officielle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 15 langues officielles sont reconnues dans les divers pays de la Fédération de Russie, donc il y en a 15, et même il y en a d'ailleurs 37 qui sont des langues d'État dans la Fédération. Donc 15 reconnues comme langue officielle, 37 qui ont un statut protégé, même si la langue inter-pays, si l'on peut dire, enfin inter-État, est le russe. Donc là, en Russie, on reconnaît officiellement dans les pays là où ils sont des langues différentes. Donc c'est une conception tout à fait remarquable par rapport à l'idée qu'on pourrait se faire de ce qu'est la Russie finalement. Elle est très diversifiée. Alors, je suis allé voir en Chine. Alors, en Chine, j'y suis allé parce que j'avais entendu dire que c'était les champions toutes catégories de la diversité, ce qui est le cas. On comptabilise pas moins de 280 à 300 langues chinoises distinctes en Chine, ce qui est quand même énorme, dont certaines ont y compris des modes d'écriture distincts. Donc c'est énorme. Donc la Chine, on peut dire que c'est les champions de la diversité avec 280 à 300 langues différentes. Au niveau officiel, la langue la plus courante est le mandarin. C'est la langue parlée dans la région de Pékin et aussi à Taïwan. Il n'y a pas de différence culturelle au niveau de la langue entre Taïwan et la région de Pékin. Ensuite, il y a le cantonais, dont on parle un peu. Et évidemment, je ne vais pas vous citer les 280 autres. Mais ce sont des langues qui ont un statut de protection et qui, si elles ne sont pas les langues officielles au sens administratif, ont tout de même une existence. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je ne fais pas tous les pays, j'en ai volontairement sélectionné quelques-uns, parce que derrière ce bref état des lieux, il faut se garder des enseignements caricaturaux, parce qu'il y a aussi les problèmes de déplacement de frontières, mais il y a quand même le fait que l'on respecte ou pas les cultures des uns et des autres. Et on voit aussi le poids de la velléité coloniale qui est évidemment au cœur du sujet. Alors j'ai voulu regarder aussi les évolutions. J'ai pris trois pays pour regarder comment ça évolue ces affaires-là. Eh bien, j'ai commencé par le Sénégal, puisqu'au Sénégal, la langue officielle est toujours le français aujourd'hui. Ce qui peut paraître un petit peu original. Alors, il y a d'autres langues parlées pour les gens dans la vie de tous les jours. Hein. Je pense au Wolof, c'est pas le seul d'ailleurs. Mais pour autant, au Sénégal, la langue officielle, c'est le français. Alors, un autre pays longtemps colonisé, le Vietnam, eh bien, au Vietnam, par contre, non seulement le français n'est plus la langue officielle, ce qu'on comprend aisément, mais le français a pratiquement disparu. Il n'y a pas pratiquement personne qui parle le français au Vietnam. Et dans les régions touristiques ou les activités commerciales, on ne vous parlera qu'en anglais. Donc là, c'est quand même assez extraordinaire de penser que le français a pratiquement disparu dans le quotidien de quasiment tous les Vietnamiens. Alors en Ukraine, sujet sensible, les Ukrainiens russophones sont 24% de la population et ils veulent conserver leur langue. Et vous savez peut-être que c'est l'un, c'est pas le seul, mais c'est aussi un des gros motifs du conflit intra-ukrainien, si on peut l'appeler comme ça, avec ces russophones qui veulent conserver leur culture et leur droit de parler le russe. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, le russe était parlé partout en Ukraine et qu'on a réintroduit, en fin de compte, l'ukrainien qui est grosso modo une variante du russe. C'est pas très, très c'est pas très différent, alors que le russe a été longtemps la seule langue parlée à la fois administrativement et culturellement en Ukraine. Donc aujourd'hui, le droit de parler la langue de son choix pour un quart de la population ukrainienne fait partie du conflit. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors il y a bien sûr plein d'enseignements à tirer derrière tout ça, mais c'était simplement pour faire un genre de panorama en quelque sorte de la situation dans le domaine. Il y aurait donc beaucoup d'autres choses à dire à travers la langue parlée et je vous laisse là-dessus, sur cette chronique et à la semaine prochaine.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Ah ben si.
Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.